RFI.
Bonjour Dominique Bayard.
Bonjour Hugo.
Après 10 ans d'expansion, les jours de l'incroyable bonne santé de l'économie américaine sont-ils comptés ? Jerome Powell, le président de la Banque centrale des États-Unis, est resté optimiste dans son intervention au Sénat tout en mettant en garde contre les dangers qui menacent.
Pour le patron de la Fed, rassurant, la croissance américaine est robuste, mais il se gardera de relever les taux d'intérêt à cause de ce qu'il a appelé des signaux contradictoires. Il cite les dangers externes, le Brexit, les négociations commerciales sino-américaines qui font peser des doutes sur l'état général du monde, sans s'étendre sur les signaux émanant de l'intérieur des États-Unis. Pourtant, il y en a eu quelques-uns ces derniers temps. La première alerte a été donnée sur le marché du crédit automobile.
7 millions d'Américains ont plus de 3 mois de retard dans le remboursement de leur crédit auto.
Oui, et cela, ça veut dire qu'ils vont devoir sans doute renoncer à leur véhicule. C'est un taux de faillite relativement élevé. 1 million de plus que début 2009, quand les États-Unis étaient encore en récession, sonnés par la crise financière de 2008. Les ménages les plus pauvres sont les premiers concernés. C'est à eux que les banques prêtent les yeux fermés, un peu comme pendant la crise des subprimes, sans vérifier leur solvabilité. Le crédit automobile ne constitue qu'une infime partie du crédit à la consommation. C'est pourquoi cet indicateur ne sera pas un détonateur. Mais c'est un peu comme le canari dans la mine de charbon qui avertit du danger imminent quand il arrête de chanter.
Et l'autre indice de ralentissement émane de la production automobile.
En chute de 8% au mois de janvier, là encore, il faut remonter à mai 2009, c'est-à-dire à la sortie de la débâcle de 2008 pour retrouver un repli aussi important. Les constructeurs anticipent la baisse des achats qui a commencé à se manifester en décembre. D'autres industries ont aussi réduit la voilure en janvier, la chimie, l'électronique ou encore les machines-outils. En revanche, c'est vrai, d'autres indicateurs puissants sont toujours aussi positifs. Le taux d'emploi en hausse et les bas salaires enfin sur la courbe ascendante, a signalé Jerome Powell. L'inflation demeure basse. L'économie américaine est donc tout à fait capable de poursuivre son expansion si elle est encore en croissance en juin prochain. Son cycle de croissance fêtera ses 10 ans, une période incroyablement longue.
Alors pourquoi une majorité des économistes prévoit un ralentissement pour cette année ou en 2020 ?
Eh bien tout simplement parce que l'économie est cyclique et que ce cycle d'expansion qui a déjà dépassé les normes finira par se retourner à la faveur d'un choc. Si Donald Trump surveille les cours du pétrole comme le lait sur le feu, c'est parce qu'il craint qu'un baril à 100 dollars ne vienne faire dérailler l'Amérique. Ce qui préoccupe davantage les experts, c'est la grande fragilité des finances publiques américaines. Avec une économie florissante, les rentrées fiscales devraient augmenter, mais la réforme des impôts a ralenti le mouvement. Résultat, le déficit galope, la dette américaine explose, elle approche les 22 000 milliards de dollars. Ce n'est pas soutenable, selon Jerome Powell. Donald Trump cherche pourtant toujours des milliards pour financer son mur le long de la frontière mexicaine ou encore d'autres projets d'infrastructure, comme si l'Amérique pouvait vivre éternellement à crédit. Cette fiction pourrait bien virer au cauchemar quand les taux d'intérêt remonteront, préviennent les pessimistes. La Fed, pour l'instant, prend donc son temps pour relever le loyer de l'argent.
En bref, un nouveau psychodrame entre Air France et son partenaire KLM avec la montée surprise du gouvernement néerlandais dans le capital de l'Alliance.
Oui, les Pays-Bas ont annoncé hier en fin de journée avoir pris 12,6% dans le capital de l'Alliance, alors que jusqu'à maintenant, ils n'étaient présents que dans le capital de leur compagnie KLM. La participation publique française, elle, est de 14%. À l'origine du différend, la volonté du nouveau patron de l'Alliance, Ben Smith, de mieux contrôler la KLM. Les Néerlandais, eux, redoutent de voir baisser l'activité de l'aéroport de Schiphol où leur compagnie est basée.
Au Vietnam, 3 compagnies aériennes viennent de signer des commandes de mirobolantes auprès de fournisseurs américains.
Les contrats se montent au total à 21 milliards de dollars. Boeing en est le principal bénéficiaire. Ces contrats ont été annoncés en marge du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Merci Dominique Bayard du service Echo d'RFI. On continue de parler de l'économie américaine, du patron de la réserve fédérale, dont on mentionnait le nom à l'instant. C'est avec Pierre-Yves Dugas qui fait le point sur les valeurs boursières à Wall Street.
Le patron de la réserve fédérale s'exprimera devant une commission de la Chambre des représentants aujourd'hui. Il devrait répéter son message d'hier devant une commission du Sénat. Jay Powell reste optimiste, mais juge que les signaux économiques récents aux États-Unis sont contradictoires et que la faiblesse de l'inflation donne du coup tout le temps nécessaire à la Fed avant de relever à nouveau son taux directeur. On surveillera tout à l'heure les chiffres des commandes à l'industrie du mois de décembre aux États-Unis. On anticipe un gain de 0,5%. La première estimation du déficit commercial de décembre est également attendue en légère hausse. Parmi les résultats trimestriels, on attend avant l'ouverture ceux de Best Buy, le numéro 1 de la distribution de produits électroniques aux États-Unis.
Pierre-Yves Dugas pour les valeurs boursières à Wall Street. À la une de l'actualité, en ce 27 février, le sommet bilatéral entre la Corée du Nord et les États-Unis a débuté. Ce matin, à Hanoï, au Vietnam, Kim Jong-un et Donald Trump se retrouvent pour la deuxième fois en 8 mois, 2 jours de sommet avec un objectif, avancer sur l'épineux dossier de la dénucléarisation. Le cardinal australien George Pell, placé en détention à Melbourne après sa condamnation pour abus sexuels, celui qui était jusqu'à présent le numéro 3 dans la hiérarchie du Vatican, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs. Il est le plus haut responsable de l'Église catholique, condamné dans une affaire de pédophilie. La première ministre britannique Theresa May laissera aux députés le choix d'un éventuel report du Brexit pour éviter une sortie sans accord de l'Union européenne le 29 mars. La locataire du 10 Downing Street cède aux pressions, y compris de son propre camp. Le Brexit sans doute au menu de la rencontre aujourd'hui à Paris entre le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Et puis c'est officiel au Nigeria, la commission électorale proclame Muhammadu Buhari vainqueur de la présidentielle de samedi dernier. C'est la deuxième fois que les deux hommes se rencontrent en moins d'un an. Kim Jong-un et Donald Trump se sont vus ce matin à Hanoï dans le cadre d'un sommet bilatéral. Le leader nord-coréen et le 45e président des États-Unis ont 2 jours pour trouver un accord et poursuivre le réchauffement amorcé en juin 2018 à Singapour. Une entrevue très suivie par la communauté sud-coréenne au Vietnam. Stéphane Lagarde l'a constaté pour RFI.
Marteau, perceuse, les employés municipaux effectuent les dernières retouches d'avant-sommet dans les rues du quartier coréen de Hanoï. Ici vivent une grande partie des Sud-Coréens de la capitale vietnamienne. Park Jong-un est arrivé au Vietnam il y a 6 ans pour travailler chez le géant sud-coréen de la téléphonie mobile.
Environ 60 000 Coréens travaillent ici. La plupart sont chez Samsung, beaucoup vivent à Hanoï. C'est bien ici. Les affaires sont en plein boom, même si je ne suis pas sûr que ça touche les Coréens. Si les salaires n'augmentent pas trop rapidement, ce sera toujours bien pour les étrangers d'investir au Vietnam.
Avec la méga-usine Samsung ouverte en 2009 dans la zone industrielle de Yen Phong à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale vietnamienne, la Corée du Sud est aujourd'hui le premier investisseur étranger au Vietnam devant le Japon, Singapour et Taïwan. Un phénomène encore renforcé par la nouvelle politique vers le sud de l'actuel gouvernement à Séoul. Viet Phong est chercheur à la Harvard Kennedy School.
Le président du Corée du Sud, Moon Jae-in, il est le supporter principal pour la procès de négociation entre Kim Jong-un et Donald Trump. Parce qu'il y a déjà une coopération économique vraiment forte entre Corée du Sud et Vietnam. Peut-être Corée du Sud il veut répliquer cette coopération avec Corée du Nord.
Une coopération économique mais aussi des liens privés et la naissance de familles mixtes comme nous l'explique cette lycéenne.
J'ai un grand-père nord-coréen et une grand-mère sud-coréenne. Mon père est venu ici il y a 10 ans, il s'est marié avec ma mère qui est vietnamienne. J'espère que le Vietnam va servir de pont entre les deux Corées avec ce sommet. Mon père m'a raconté qu'autrefois en Corée du Sud, il utilisait des ballons gonflables pour transporter de la nourriture à sa famille en Corée du Nord. Les ballons volaient au-dessus de la frontière.
Le Vietnam comme pont entre les deux Corées, c'est aussi ce que souhaitent ces touristes sud-coréens venus visiter le mausolée Ho Chi Minh.
Cela fait maintenant 2 mois qu'on prépare ce voyage au Vietnam. On a de la chance. On ne savait évidemment pas que ce deuxième sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump tomberait cette semaine. C'est émouvant de se retrouver ici. C'est un moment important. Oui, c'est un très grand jour pour la Corée. Donc on est très contents.
Et aujourd'hui, 6000 entreprises sud-coréennes sont implantées au Vietnam, dont une partie d'entre elles rêve de s'installer en Corée du Nord, où la main-d'œuvre est encore moins chère. Stéphane Lagarde, Hanoï, RFI.
Et on reste au Vietnam dans le cadre donc de ce deuxième sommet bilatéral entre la Corée du Nord et les États-Unis. L'engouement est palpable, on vient de l'entendre, et les autorités vietnamiennes entendent profiter de l'événement pour donner une image positive du pays. On appelle sans plus tarder notre correspondant à Ho Chi Minh Ville, Frédéric Noir. Bonjour.
Bonjour.
Frédéric, pourquoi les États-Unis et la Corée du Nord ont-ils choisi le Vietnam pour cette deuxième rencontre ?
Écoutez, le Vietnam est un pays stratégique. Tout d'abord, c'est un allié de très longue date de la Corée du Nord, même si leur relation parfois pu être tendue, notamment en 1979, au moment de l'invasion par le Vietnam du Cambodge, pour déloger les Khmers rouges alors soutenus par Pékin et Pyongyang. Mais mis à part cette parenthèse, les deux pays présentent une histoire, disons, parallèle. Rappelons que la Corée du Nord a notamment soutenu le Nord communiste lors de la guerre du Vietnam contre les Américains, et le Vietnam fut coupé en deux pendant plus de 20 ans jusqu'en 1975, tout comme c'est le cas aujourd'hui pour la péninsule coréenne. Pour les Américains, le Vietnam est également un choix stratégique. Le pays apparaît en effet comme une terre de compromis. Hanoï a introduit en 1986 une politique de rénovation économique et depuis lors a embrassé le capitalisme sans hypothéquer son régime communiste. S'en est suivie une croissance économique florissante au cours des dernières décennies, un modèle à suivre qui pourrait séduire le dirigeant nord-coréen. Enfin, pourquoi le Vietnam ? Il faut le rappeler, c'est un pays où la liberté de la presse et les manifestations à caractère politique sont réprimées. Une façon de s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles durant le sommet. D'ailleurs, des forces de sécurité ont été déployées devant des maisons de centaines de militants, non seulement à Hanoï, mais aussi à Ho Chi Minh-ville. Et pour l'anecdote, un sosie de Kim Jong-un, qui se baladait il y a quelques jours dans les rues de Hanoï, a été expulsé du pays.
Frédéric, quelles sont les réactions sur place ? Comment réagissent les Vietnamiens ?
Alors, il est fort difficile de parler de l'opinion des Vietnamiens en général. Ce que l'on peut dire, c'est que cette visite ne laisse pas les Vietnamiens indifférents et que les autorités sont très soucieuses de donner une bonne image du pays. Hanoï, Kim Jong-un a été accueilli en grande pompe. Partout, des drapeaux vietnamiens, américains et nord-coréens ont été distribués et des vendeurs du vieux quartier touristique de Hanoï vendent déjà des t-shirts fraîchement imprimés représentant Trump et Kim Jong-un. Manifestement, le Vietnam est fier de se retrouver pendant quelques jours au centre de l'échiquier politique mondial. Selon le gouvernement, environ 3000 journalistes étrangers couvriraient l'événement. Certains d'entre eux ont d'ailleurs reçu un email du centre de presse dépendant du ministère des Affaires étrangères vietnamien, les invitant à écrire, je cite, des articles et des reportages positifs sur le sommet et le Vietnam. Si les détails du parcours de Kim Jong-un au Vietnam sont gardés secrets, il a été plusieurs fois évoqué la possibilité qu'il visite au nord du pays l'usine sud-coréenne de Samsung, l'un des principaux investisseurs étrangers au Vietnam, ainsi que l'usine du groupe Vingroup, une entreprise privée locale qui vient de commercialiser ses premiers modèles de voitures et de motos 100% locales. Une success story vietnamienne qui pourrait inspirer les Nord-Coréens.
Frédéric Noir, correspondant de RFI à Ho Chi Minh-ville, au Vietnam, Hanoï et Ho Chi Minh-ville où il est maintenant à 13h29. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. RFI Matin ne fait que commencer dans une poignée de secondes. Un nouveau point sur l'actualité avec Andréane Mellard suivra le focus de la rédaction à Derry, Londonderry, en Irlande du Nord, une ville plongée dans l'incertitude du Brexit. L'actualité internationale française et africaine, c'est à retrouver en son et en image. Une seule adresse, vous la connaissez, www.rfi.fr. Des articles à lire également sur nos applications smartphone. Vous écoutez RFI, vous avez bien raison. Dans 10 secondes, Andréane Mellard pour le point sur l'actualité.